autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs. Avec Hugo Violas à la réalisation pour nous poser des questions existentielles, essentielles, sur la vie, l'univers et le reste. De quoi sommes-nous faits ? Quelle est notre place dans le cosmos ? Comment l'univers est-il né ? D'où viennent nos atomes ? Qu'est-ce qui relie le monde vivant ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Autant d'immenses interrogations qui nous habitent depuis toujours et auxquelles les sciences du XXIe siècle apportent, si ce n'est des réponses, au moins de nouvelles pistes de réflexion et d'interrogations inédites partagées par notre invité, l'astrophysicien Sébastien Carassou, dans son premier ouvrage « Le cosmos et nous » paru aux éditions des Équateurs, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs et astronomes amateurs, vous retrouverez aussi en fin d'émission notre éphéméride mensuelle du ciel d'Afrique. Mais d'abord, et puisque notre invité Sébastien Carassou ose tout ou presque sur sa chaîne YouTube « The Sense of Wonder », un sens de l'émerveillement que nous vous invitons à partager sans modération et sans se prendre trop au sérieux autour de la question que nous apprennent les sciences du XXIe siècle sur la vie, l'univers et le reste. Bienvenue pour nous interroger ensemble sur le sens de la vie carrément avec les Monty Python.
Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Our fate. Is there a heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving or is it too late? What's on that? Here's the meaning of life.
The meaning of life, le sens de la vie, version Monty Python. Ça, c'est vraiment pour vous, Sébastien Carassou. Bonjour.
Bonjour, et je suis très honorée qu'on commence par du Monty Python parce que je suis un grand fan. Voilà.
Ça ne m'étonne pas. Hein. Merci en tout cas d'être en direct avec nous pour partager donc toutes nos questions les plus existentielles avec sérieux, mais sans nous prendre au sérieux. C'est un peu ça votre approche. Vous êtes docteur en astrophysique, Sébastien, spécialisé dans l'évolution des galaxies, mais vous êtes aussi et surtout un formidable passeur de science. À travers votre chaîne YouTube, The Sense of Wonder, un titre bien digne des Monty Python d'ailleurs, suivi par plus de 170 000 personnes, pas mal. Hein. Vous venez de publier, Sébastien, aux éditions des Équateurs, votre premier ouvrage intitulé Le cosmos et nous, dans lequel vous ouvrez, vous réouvrez finalement toutes les questions possibles et imaginables, on l'a dit, hein, sur la vie, l'univers et le reste. Vous le dites vous-même en introduction, des questions qui sont aussi vieilles que notre humanité, mais auxquelles les sciences du 21e siècle apportent quoi ? Pas vraiment de nouvelles réponses, mais de nouvelles pistes de réflexion.
Alors, on a déjà des nouvelles questions qui émergent hein, et qui n'existaient pas il y a 2000 ans, mais on est aussi dans un processus d'accélération de la production des connaissances. Et j'aime bien dire en public en général que moi j'ai 29 ans aujourd'hui. Et dans mes 29 ans d'existence, il y a eu énormément de révolutions, de découvertes fondamentales dans notre compréhension du monde. On a eu la découverte de la première exoplanète, donc la première planète au-delà de notre système solaire quand j'avais 3 ans. Quand j'avais 6 ans, on a découvert l'accélération de l'expansion de l'univers. Mmh. Quand j'avais 11 ans, on a séquencé le génome humain. Et quand j'avais 27 ans, on a fait les premières images de la silhouette d'un trou noir, ce qui est quand même formidable. Et aujourd'hui, donc, on commence à avoir des pistes sérieuses, des éléments de réponse fiables à des questions existentielles. Et c'est ça que j'essaie de transmettre à travers ce livre.
Plutôt que de partir alors, dans des élucubrations faciles, fausses croyances, voire fake news, vous-même, Sébastien Carassou, et moi je trouve tout ça est extrêmement intéressant. Vous vous êtes d'abord intéressé, vous étiez fasciné par les ovnis, ce qu'on peut comprendre.
Absolument, je suis passé par le côté obscur de la force avant de retourner vers le côté lumineux. Moi, je suis un grand fan de science-fiction. Et quand j'étais petit, je regardais énormément de science-fiction. Et il se trouve que dans dans les années 90, science-fiction et culture OVNI étaient très, très, très liées. Voilà, c'était l'époque des X-Files, etc. Donc, I Want to Believe. Et je suis tombé vraiment fasciné par cette approche qui m'a fait traîner dans les cercles ufologiques pendant un moment. Mais j'ai découvert un monsieur qui s'appelle Carl Sagan, donc un grand vulgarisateur américain qui est une superstar aux États-Unis.
Mais pionnier de l'exobiologie, hein, de la recherche de vie extraterrestre.
Tout à fait. Et pionnier de la vulgarisation scientifique à travers son documentaire Cosmos dans les années 80. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai découvert Carl Sagan que je suis un petit peu sorti de cette culture OVNI, parce qu'il, dans ses ouvrages, il démontait un petit peu les arguments des ufologues.
Et vous êtes allé du côté sérieux, j'ai envie de dire.
Vous êtes allé étudier
sérieusement toutes ces questions qu'on a le droit de se poser. Hein.
Mais c'est des questions qui sont purement légitimes, évidemment. Personne ne va vous mettre un pistolet sur la tempe pour vous dire ne réfléchissez pas à ces questions-là. Même Carl Sagan, d'ailleurs, avait des théories ou des hypothèses qu'on pourrait considérer comme farfelues aujourd'hui, comme la théorie des anciens astronautes. Mais ça, c'est des petits écarts dans une carrière très, très riche. Voilà, Carl Sagan n'a pas toutes les réponses. Personne n'a toutes les réponses.
Voilà,
et c'est ça le message principal de mon œuvre, au final, c'est de dire que la science, c'est jamais, on n'a jamais accès à des vérités absolues, fondamentales. Par contre, on se pose des toutes petites questions qui, quand on les agglomère, peuvent nous donner des éléments de réponse fiables à des grandes questions.
Autour de la question, hein, on est bien d'accord. Hein, il y a plus de questions intéressantes, peut-être, que de réponses quoique. Alors, vous avez cité Carl Sagan. Il avait donc écrit Cosmos, ou c'est le Cosmos et nous. Autre grand, comment dire, parrain, patron, maître au-dessus de vous. Vous citez d'ailleurs en introduction de cet ouvrage le formidable savant naturaliste Alexander von Humboldt, qui après avoir exploré le monde, a publié en 5 volumes Cosmos, essai d'une description physique du monde entre science et poésie. Moi, je trouve que vous tenez un peu de ça. Et vous citez encore, je cite tous vos maîtres, hein, mais parce que franchement, ça vaut le coup et ça vaut le détour. Chapitre 1, ça commence « De quoi sommes-nous faits ?» Hein, le premier chapitre de votre ouvrage Cosmos. Vous citez le prix Nobel de physique Richard Feynman. C'est quoi? C'est un petit poème? Vous nous le lisez,
Sébastien.
C'est
un petit poème que je trouve très très beau et qui nous dit « Sorti du berceau, le voici, debout, sur la terre ferme, atome doté de conscience, matière mue par la curiosité. Au bord de la mer, il s'émerveille. Moi, un univers d'atomes, un atome dans l'univers. »
Moi, un univers d'atomes, un atome dans l'univers, au bord de la mort comme au bord de la mer. On peut se poser cette question-là, mais d'où ce voyage fantastique que vous nous proposez finalement dans cet univers d'atomes, et le cosmos et nous, et un atome et des atomes dans l'univers, c'est ça, hein ?
Mais littéralement, oui. L'idée de ces deux chapitres introductifs, c'est d'emmener le lecteur dans un grand voyage à la première personne, à travers toutes les échelles de la réalité. Et donc, on va visiter l'intérieur d'un corps humain, on va visiter les cellules, ces molécules d'ADN, et puis les atomes qui constituent ces molécules d'ADN, l'intérieur de ces atomes, les noyaux et les quarks et les gluons qui constituent ces noyaux d'atomes. Et ensuite, on va faire un énorme dézoom pour aller dans toutes les structures à grande échelle de l'univers. On va sortir du système solaire, voyager à travers notre galaxie, à travers la toile cosmique, qui est la plus grande structure connue de l'univers que l'on connaisse à l'heure actuelle, qui ressemble à une espèce d'immense éponge ou un réseau de neurones. Et voilà, et c'est des structures qu'on connaît peu au final, mais c'est une construction intellectuelle qu'on commence à peine à avoir, qui évolue au fil du temps et qui, je trouve, absolument, absolument belle, en fait.
Et c'est ça, il y a la beauté, hein, la beauté de l'univers. C'était David Elbaz qui s'occupe du astrophysicien, qui s'occupe du James Webb Télescope, qui vient de faire un livre là-dessus.
Tout à fait, qui était un de mes profs de galaxie, d'ailleurs.
Eh bien, voilà, on se retrouve hein, tous autour de la question, justement, du cosmos et de nous-mêmes. Et on retrouve aussi toutes les échelles, c'est-à-dire l'infiniment petit, l'infiniment grand, nous et le cosmos. Et c'est comme ça qu'on peut, bizarrement, peut-être, le mieux faire passer cette cosmologie extraordinaire. C'est finalement un bon moyen de le faire passer.
Eh bien, j'espère, en tout cas. Le fait d'impliquer les lecteurs dans ce voyage intellectuel, ça m'évite de faire une liste de concepts ou une liste de notions qui serait peut-être un petit peu plus indigeste, mais qui serait non moins passionnant. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre des artifices narratifs pour pouvoir permettre aux lecteurs de se figurer la place qu'ils ont dans un vaste
univers. Vous aimez bien la science-fiction, vous nous posez des questions du genre « Quel super pouvoir choisiriez-vous » Alors, ce serait quoi de rétrécir jusqu'à l'atome.
Exactement,
c'est ça,
ce serait les pouvoirs de Ant-Man, l'homme fourmi, ce super-héros de l'univers Marvel qui, grâce à sa combinaison, peut voyager à travers toutes les échelles de la nature, enfin surtout dans l'infiniment petit. Et je me sers de cet artifice-là pour emmener le lecteur à l'intérieur d'un corps humain.
À l'intérieur d'un corps humain, puis ensuite dans le deuxième chapitre, nous sommes un petit point bleu dans l'univers et vous nous expliquez que nous sommes ici, dans la banlieue, dans la banlieue de la Voie lactée, on peut le dire. Quelle est notre place dans le cosmos? Pour y répondre, vous nous renvoyez donc à Carl Sagan et au Pale Blue Dot, ce petit point bleu dans l'univers qu'on en a pu voir quand on a pu s'éloigner de la Terre en musique avec ce morceau « You are here ». Vous êtes ici, ici même, signé Hydrogen Sea sur RFI.
On this pale blue dot, every hunter, every hero, every coward, every creator and destroyer, every king and queen, every young couple in love, every hopeful child, every mother, every father, every inventor, every teacher of loose morals, every superstar, every leader, saint and sinner, every explorer. They all reside on a mote of dust, suspended in a sunbeam, in an ocean of darkness.
Hydrogen Sea sur RFI, You Are Here. Merci pour ce très inspirant choix musical où j'ai cru reconnaître les textes de Carl Sagan lui-même.
Absolument.
Sébastien Carassou.
Merci de l'avoir diffusé. Elle me file des frissons, cette musique.
The Pale Blue Dot, notre petit point bleu dans la banlieue de la galaxie, autour de la question que nous apprennent l'astrophysique et toutes les sciences du 21e siècle sur la vie, l'univers et le reste. Alors le reste, justement, ça nous intéresse beaucoup. La vie ailleurs dans l'univers aussi, mais comment la détecter, comment les détecter, ces autres formes de vie extraterrestres, extrait d'une des dernières vidéos de votre chaîne YouTube, The Sense of Wonder, Sébastien Carassou.
Hé hey Seb, c'est que ça sert à rien d'écouter l'univers comme ça?
Hein?
Si tu veux capter des signes de civilisation extraterrestre, il y a des algorithmes qui écoutent des milliers de fréquences en même temps.
Mais je sais bien ça, je suis en train de chercher les musiques pour le prochain épisode. Tiens, écoute-moi ça, peut-être la bonne.
Mais puisque t'en parles, 25 ans après la découverte du premier monde orbitant autour d'une autre étoile que la nôtre, on peut dire que notre chasse aux planètes a été un franc succès. Plus de 4000 exoplanètes confirmées, des mondes d'une variété époustouflante, suffisamment pour qu'on puisse commencer à estimer que chaque étoile de notre galaxie abrite au moins une planète en moyenne. Ou encore que parmi les étoiles similaires à notre Soleil, une sur cinq abriterait une planète de la taille de la Terre dans sa zone d'habitabilité. Mais plusieurs questions restent en suspens. Parmi tous ces mondes, sur combien d'entre eux la vie s'est-elle développée ? Certaines de ces planètes ont-elles développé des sociétés technologiques, capables de communiquer avec nous? Et si ces sociétés existent bel et bien, pourrait-on en détecter les traces?
Gigantesque question ouverte sur votre chaîne YouTube The Sense of Wonder, le sens de l'émerveillement, et dans votre ouvrage Le Cosmos et nous, Sébastien Carassou. Immense question soulevée par les découvertes les plus récentes de milliers d'exoplanètes.
Absolument.
D'autres planètes autour, qui tournent autour d'autres étoiles, d'autres soleils que le nôtre.
Tout à fait. À l'heure actuelle, au dernier comptage, on en est à 4800 exoplanètes découvertes. Certaines sont absolument passionnantes, comme le système TRAPPIST-1 qu'on a découvert en 2016. Et qui abrite 7 planètes qui orbitent très très proche de leur étoile, mais une étoile très très froide, beaucoup plus froide que notre Soleil, et dont 3 de ces planètes se trouvent pile à la bonne distance de leur étoile pour pouvoir abriter potentiellement de l'eau liquide. On ne sait pas grand-chose encore de ces mondes, mais dans les années à venir, on va avoir les outils pour pouvoir sonder l'atmosphère de ces exoplanètes pour savoir si elles pourraient abriter des anomalies chimiques qui trahiraient la présence de vie à leur surface.
Des anomalies chimiques, du désordre, des choses qui symboliseraient la vie. Mais quelle forme de vie ? Je reprends la question d'un de nos auditeurs au Tchad, il s'appelle Apollinaire, et il nous dit joliment, avec un point d'interrogation, et si nous ne sommes pas les seuls, quelles autres formes de vie existent ? Des bipèdes, à l'exemple de l'homme, ou bien des petits hommes verts ?
Alors aujourd'hui, ce qu'on cherche, enfin, ce qui est le plus facile à chercher, on va dire, dans la communauté scientifique, ce sont des traces chimiques. Parce qu'on ne peut pas dire grand-chose de la vie au sens large dans l'univers.
On a même du mal à donner une définition, finalement, de la vie aujourd'hui.
On a beaucoup de mal à donner une définition. On en a plus d'une centaine à l'heure actuelle de définitions de la vie, selon les domaines d'expertise des experts, des philosophes et des biologistes sur la question. Ils vont mettre en avant certaines propriétés de la vie plutôt que d'autres, comme la complexité, le traitement de l'information, le fait de se reproduire ou le fait d'avoir une molécule qui perdure au fil des générations. Donc on ne sait pas exactement ce qu'on cherche quand on cherche de la vie dans l'univers. Par contre, ce qu'on sait sur le seul exemple de vie dans l'univers qu'on connaisse, c'est-à-dire la Terre...
Le nôtre, hein,
le
c'est
nôtre,
ça,
absolument.
On est d'accord.
On sait que la vie, elle modifie l'atmosphère, elle modifie la composition atmosphérique de sa planète. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et de manière pragmatique, c'est ça qu'on cherche quand on cherche de la vie dans l'univers. On cherche des traces chimiques. Alors, c'est pas aussi...
Sexy que dans la science-fiction. Hein.
C'est pas aussi sexy que de découvrir des bipèdes ou des ingénieurs extraterrestres comme on s'attendait à ce qu'il y en ait il y a près d'un siècle. Mais ça reste une piste tout à fait sérieuse qui est considérée aujourd'hui. Hein. Il y a de nombreux chercheurs du SETI, du Search for Extraterrestrial Intelligence, qui est un institut américain qui cherche des civilisations extraterrestres, des sociétés extraterrestres.
Des intelligences, vraiment.
Hein, des vraiment intelligences. Il y a pas mal d'approches qui peuvent être intéressantes, comme par exemple détecter des molécules de pollution atmosphérique émises par des sociétés industrielles. Alors, rien ne présage de la durabilité de telles sociétés, mais en tout cas, on devrait avoir des outils dans les années à venir pour nous permettre de détecter ce genre de traces.
D'où l'intérêt justement de s'intéresser à ce que c'est que la vie, à ce qui remplit le monde vivant, au sens de la vie, aux interactions entre le vivant. En fait, si on cherche d'autres formes de vie, il faut mieux comprendre, mieux cerner. C'est pas donner une définition, mais mieux cerner l'écosystème vivant, en fait, c'est
absolument
ça.
Mais c'est très difficile quand on n'a qu'un seul exemple dans l'univers. Alors, ce qui nous aiderait, c'est la découverte d'un deuxième exemple de vie ailleurs. Hein. On a plein de pistes,
même
dans notre système solaire. Ouais. On commence à envoyer des robots sur Mars pour détecter des potentielles traces de vie passée à la surface ou sous la surface. On commence à savoir qu'il y a des océans souterrains sous certaines lunes glacées du système solaire comme Europe ou Encelade. Et dans les décennies à venir, on aimerait bien envoyer des robots creuser sous la surface de ces mondes pour pouvoir savoir qu'est-ce qui pourrait se développer dans ces océans d'eau liquide. Dans l'océan d'Europe, hein, on a plus d'eau que l'intégralité des océans sur Terre, ce qui est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce qui pourrait se former dans ces mondes glacés ? On ne sait pas.
Et tout le monde s'interroge, et les plus grands chercheurs en astrophysique ne mettent pas... disent tous qu'il y a probablement. Vous en pensez quoi ?
Alors moi, je pense que le probablement, il est prématuré, dans le sens où c'est mathématiquement impossible de faire des prédictions sur à quel point la vie est un phénomène commun dans l'univers, tant qu'on n'a qu'un seul échantillon de vie connu dans l'univers. Et notamment, ce qui nous manque pour résoudre cette question, c'est une théorie... qui soit suffisamment fiable, de comment est-ce que la vie est apparue sur Terre. Les scientifiques, ils appellent ça l'abiogénèse. Comment est-ce qu'on passe d'un monde mort à un monde vivant ? Aujourd'hui, on a plein d'hypothèses qui demanderaient, pour être vérifiées, de remonter dans le temps pour savoir quelles sont les péripéties auxquelles ont dû subir les premiers systèmes prébiotiques, les premiers systèmes chimiques qui ont fini par s'assembler pour former les premiers systèmes vivants. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas cette réponse-là. Donc, tant qu'on n'a pas cette réponse-là, l'hypothèse qu'on soit la seule forme de vie dans tout l'univers connu qui ait émergé depuis les 13,8 milliards d'années de l'histoire du cosmos, elle est aussi valide que les autres.
Génial, parce que du coup, là, vous avez vraiment l'esprit scientifique, vous nous montrez comment est-ce qu'on peut faire un raisonnement, là où il ne faut pas justement être affirmatif, là où ça ouvre tout, mais aussi là où on a besoin d'une extraordinaire interdisciplinarité entre les sciences et les domaines de recherche, c'est-à-dire qu'effectivement, l'astrophysique doit effectivement remonter aux origines de la vie, travailler avec des biologistes, travailler avec d'autres aussi. Précisément, je vais vous faire écouter un éclairage qui va dans notre sens et qui est particulièrement inspirant, assez déroutant aussi, c'est celui de l'exobiologie biologiste Nathalie Cabrol. Vous parliez de SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Elle dirige le centre Carl Sagan de l'Institut SETI aux États-Unis. Elle est exobiologiste spécialisée dans la recherche d'autres formes de vie ailleurs, donc dans l'espace, mais aussi sur Terre. Et paradoxalement, Nathalie Cabrol nous renvoie sur d'autres sciences que cette exobiologie pour parler de la nature de la vie dans l'univers. On l'écoute.
Ce dont on n'a pas parlé, c'est des progrès vers la définition de la nature de la vie qui ne viennent pas à l'heure actuelle de l'astrobiologie par elle-même, mais qui nous sont donnés par des équipes de recherche multidisciplinaires qui incluent la physique quantique, la neuroscience et l'intelligence artificielle. Et ils arrivent tous à des conclusions qui sont assez similaires et qui nous donnent le vertige, parce qu'ils ramènent l'existence de la vie à sa quantité la plus infime, le quantum. Donc à ce moment-là, on ramène l'univers à une source d'énergie. Tout est énergie et information, bien évidemment, mais ça ne peut devenir qu'information que lorsqu'il y a un observateur pour décoder l'énergie. Mais si vous prenez cette logique-là, la conclusion est absolument incontournable. L'univers est vivant. Et donc, il n'y a plus besoin de chercher la vie dans l'univers, puisque tout est vivant. Et la différence que nous faisons entre le vivant et le non-vivant, c'est simplement la définition de notre capacité à comprendre et à percevoir ce qui est vivant. C'est un échange d'informations qui se fait quelquefois à des niveaux plus bas que ce que nous pouvons comprendre, ou à des complexités plus faibles que ce que nous pouvons comprendre. Et la beauté de cette chose que j'avais écrite et essayé de décrire dans un article au Scientific American, c'est de dire qu'on peut toujours partir à la recherche de la vie dans l'univers, ça ne change rien. Mais ce n'est pas la vie dans l'univers, c'est la vie par l'univers.
Et là, ça change tout.
Ça change absolument tout. Et ça nous donne aussi une approche complètement différente de comment chercher la vie extraterrestre. Parce que si ils ont raison, comme tout est énergie et information, on est déjà sans le savoir en contact en permanence à n'importe quel endroit de l'univers. Et probablement en contact déjà, sans le savoir. C'est simplement pour nous apprendre à comprendre comment régler notre communication. Mais un univers vivant, c'est quelque chose qui donne le vertige. Et la physique quantique est en train de nous y amener. Je pense, pour moi, je l'ai dit et je l'ai répété, s'ils ont raison, et encore une fois, je dis si ils ont raison, parce que ça, c'est des théories qui vont être extrêmement difficiles à vérifier ou à falsifier, parce que quand vous dites que tout est vivant, comment on fait pour créer une expérience, pour prouver que c'est vrai ou que c'est faux? Mais s'ils ont raison, c'est la prochaine grande révolution scientifique et spirituelle, parce qu'à ce moment-là, vous réunissez les deux mondes. Il n'y a plus de séparation. Et quand je dis spirituel, je ne dis pas religieux, je dis spirituel. C'est cette relation avec l'univers qui nous entoure. Et c'est la prochaine révolution scientifique, mais c'est aussi une grande théorie unificatrice. Et ça, c'est absolument superbe.
Superbe, génial, vertigineux, sidérant. Je voulais vous faire réagir, Sébastien Carassou, à cet extraordinaire éclairage que nous a livré ici même Nathalie Cabrol.
Eh bien moi, ça m'évoque deux choses. Ça m'évoque une citation de Carl Sagan, justement, qui disait que nous sommes une manière pour le cosmos de se comprendre lui-même, qui est une très, très, très belle citation. Donc voilà, ce sentiment de connexion avec le reste du cosmos, c'est une idée qui, moi, me plaît sur le plan esthétique.
De poète, de philosophe aussi.
Absolument. Et moi, ça m'évoque une autre théorie, une autre hypothèse, un autre cadre philosophique pour comprendre la conscience, qu'on appelle le panpsychisme, et qui nous dit que la conscience, donc les phénomènes subjectifs, ce que les philosophes appellent les qualia, eh bien ce serait une propriété fondamentale de l'univers. Et donc chaque atome, chaque particule élémentaire aurait une propriété qui serait associée, voilà, qu'il soit une particule élémentaire, elle a une masse, elle a une charge électrique, mais elle pourrait aussi avoir
une sorte de conscience.
Une proto-conscience qui, en interagissant avec d'autres systèmes physiques, pourrait donner des consciences plus complexes. Alors, c'est pour moi, l'idée de Nathalie Cabrol, elle est un peu liée à cette conception panpsychiste du monde. Mais comme elle le dit très justement, c'est très difficile encore de... Même si cette idée est vraie, elle est très difficile à falsifier, à trouver des expériences ou des observations qui pourraient permettre de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Alors, si cette hypothèse est confirmée, ce serait effectivement très, très beau. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que c'est une idée assez controversée, en 2021 en tout cas.
Oui, c'est encore controversé, mais... On peut avoir des controverses, c'est qu'on a le droit de réfléchir très loin. Tous les possibles sont ouverts. Après, il faut éviter de dire j'ai raison et c'est ça. Il faut en fait, c'est vraiment, on a le droit de creuser, de fouiller jusqu'où on peut aller, mais en sachant bien d'abord que bon, tout le monde n'est pas astrophysicien et n'est pas capable d'aller vérifier les preuves, mais en sachant bien que voilà, tout est permis dans la réflexion, mais pas du tout dans l'assertion, dans l'affirmation.
Absolument, c'est l'expérience qui tranche ou les observations qui tranchent en général.
On va rester un peu dans la science-fiction parce qu'on est ici et avec Nathalie Cabrol, on y était déjà au studio 42, c'est notre studio autour de la question. Je reçois beaucoup de chercheurs, des gens qui s'intéressent aussi à la science-fiction, mais on ne m'avait jamais rapporté que c'était peut-être ici, dans ce studio numéro 42.
Et absolument.
On va comprendre quoi, le sens de la vie, c'est ça?
Eh ben, le sens de la vie, de l'univers et du reste, hein, le 42 étant la réponse à cette grande question qui a été promue par Douglas Adams dans son roman de science-fiction humoristique Le guide du routard galactique, qui était une fiction radiophonique de la BBC dans les années 50-60, qui a été convertie en film, en roman et en que sais-je, et qui est extrêmement drôle à lire, un petit peu dans le même style d'humour que les Monty Python, un petit peu de cet humour absurde british qu'on aime beaucoup.
Et qui disait donc que la réponse à toutes les questions qu'on se pose sur le sens de la vie et l'origine de l'univers et le reste,
absolument,
se trouve dans le numéro 42.
Se trouve dans le numéro 42. C'est une espèce d'alien qui décide de construire un supercalculateur géant pour en savoir plus sur la grande question sur la vie, l'univers, le reste. Le supercalculateur calcule pendant des millions d'années et tout le monde se rassemble un jour autour de ce supercalculateur pendu à ses lèvres et le supercalculateur répond la réponse à la grande question sur la vie, l'univers, le reste, c'est 42. Et là, tout le monde est ébahi, mais comprend pas forcément pourquoi. C'est la réponse à quoi? Bah, la grande question sur la vie, l'univers, le reste. Mais c'est quoi la grande question sur la vie, l'univers et le reste? Eh bah, ben, il faut encore attendre plusieurs millions d'années pour savoir quelle est la question à quelle répond 42.
Génial. Et nous voilà donc au studio 42 autour de toutes ces sacrées questions.
Autour de la réponse au final. Hein.
Et autour de la réponse, là, c'est vrai, mais on n'y arrivera pas hein, finalement à la trouver la réponse. Et tout ça autour de votre ouvrage Cosmos, le cosmos et nous, Sébastien Carassou. Et au son de vos choix musicaux, forcément, on l'a compris, spatiaux et intergalactiques. Cette fois-ci, c'est Alice Faibe-Lou que vous nous glissez entre les deux oreilles avec ce morceau Galaxies sur RFI. My mind is filled with galaxies. It's all I see. It's all I see. Of Galaxies, Alice Faibe-Lou sur RFI. Vous aussi, vous avez la tête pleine de galaxies, Sébastien Carassou, d'où ce choix musical.
Absolument. En fait, cette chanson, elle évoque chez moi cet état méditatif quand on observe l'univers, quand on regarde des photos du télescope spatial Hubble ou quand on regarde des paysages moléculaires révélés par nos microscopes électroniques. Moi, c'est ça que ça m'évoque. Ça m'évoque cette chanson.
Quelque chose de méditatif, parce qu'au fond, les scientifiques que vous êtes, les astrophysiciens notamment, ont quelque chose qui s'évade aussi, qui va plus loin. Enfin, il y a quelque chose de vertigineux. vertigineux.
Alors, pas pour tout le monde. Je pense que beaucoup de scientifiques ont un rapport à la science qui est basé sur la résolution de problèmes. Hein. C'est un effort assez technique. Mais c'est vrai que beaucoup de gens viennent à la science via cet état méditatif, cette contemplation face à quelque chose de plus grand qui transcende un petit peu leur expérience humaine et qui les ramène à leurs conditions humaines.
C'est ça, et c'est ça qu'il faut garder, faire passer et protéger autour de la question que nous apprennent les sciences du 21e siècle sur la vie, l'univers et le reste. Nous feuilletons donc votre ouvrage, Le Cosmos et nous, paru aux éditions des Équateurs, dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs, qui, je le sais, êtes particulièrement friands d'astrophysique et d'astronomie, avant de retrouver Sylvain Boulet dans quelques instants pour notre chronique mensuelle, notre éphéméride du ciel d'Afrique, et bien notre planétologue préféré que vous connaissez bien, Sébastien Carassou.
C'est un grand ami.
Nous a laissé une petite question pour vous.
Bonjour Sébastien, écoute, je suis évidemment très content de te retrouver sur l'antenne de RFI. Tu sais ce qui nous attend l'année prochaine avec l'organisation du Festival de la Francophonie pour les jeunes de 12 à 18 ans, puisque tu nous aides grandement à coacher tous ces jeunes. Et justement, je voulais savoir, comment tu ferais passer justement cette notion de vie dans l'univers le plus simplement à un jeune enfant en fait, qui voudrait en apprendre un peu plus ?
Votre réponse, cher Sébastien, à Sylvain Boulet, qui, je rappelle, est le président de la Société Astronomique de France et qui mène de nombreuses actions en faveur de l'astronomie en France, sur le continent africain avec nous et partout ailleurs dans le monde. Alors, votre réponse ?
Alors, ma réponse, je vais aller sur une pirouette, parce que c'est quand même une question extrêmement difficile à répondre. Hein. Les enfants ont des questions assez fondamentales sur l'univers et en général, j'ai extrêmement mal à y répondre parce que c'est souvent les questions les plus difficiles qui sont les questions...
Les plus simples,
en apparence, les plus simples, ouais. Mais les plus difficiles à répondre. Je vais répondre avec une pirouette en demandant aux enfants qui se posent cette question d'aller voir la chaîne YouTube Univers, qui est une chaîne YouTube qui a été faite par des enfants et par des adolescents et pour des adolescents, que j'ai eu la chance de parrainer depuis 2 ans avec Sylvain Boulet.
Univers.
Univers, la chaîne des astro-ados, qui est disponible sur YouTube. Et on trouve sur cette chaîne une quarantaine, voire même beaucoup plus, vidéos sur plein de questions d'astrophysique et notamment sur la question de la vie dans l'univers. Chacune des vidéos a été écrite par des enfants de 11 à 18 ans qui ont été coachés par des astrophysiciens et des astrophysiciennes professionnelles. Et donc ça donne des résultats assez intéressants et qui sont directement calibrés pour le public cible. Donc je conseillerais à des enfants d'aller vers là.
J'ai envie de dire aussi que vous faites un peu feu de tout bois. C'est-à-dire que même ces questions-là, les plus naïves, les plus simples en apparence, ça peut être intéressant pour des scientifiques. Ça peut être intéressant, évidemment, pour faire passer la science, les découvertes, parce qu'on en est souvent très loin, mais ça peut aussi renouveler l'approche.
Alors pour moi, le fait de se poser des grandes questions, ça nous permet de jamais nous lasser dans le petit... Le quotidien d'un chercheur, c'est un quotidien assez technique.
Hein.
Moi, pendant ma thèse, j'ai passé 3 ans à débugger du code, ce qui n'est pas l'activité la plus émerveillante possible. Hein. Donc
pour comprendre l'évolution des galaxies et des planètes. Hein.
Exactement. Alors c'est le fait de se reconnecter à ces grandes questions-là qui a fait que j'ai continué à être motivé sur ces questions, parce qu'au final, c'est ça qui nous intéresse en tant que scientifiques, c'est de répondre à des grandes questions. Enfin, pas tous les scientifiques, mais en tout cas, c'était mon cas à moi. Et ouais, ça me reconnecte à quelque chose de plus grand.
Pour garder finalement une sorte d'esprit, je ne sais pas si c'est d'enfant, en tout cas d'esprit du débutant, hein, face à tous ces mystères.
Tout à fait.
Je me souviens d'Edgar Morin, hein, qui a 100 ans cette année, et qui, lui, garde toujours cette part de mystère, et dit que finalement, au fur et à mesure qu'il a su des choses, ben, il a vu aussi grandir son ignorance. Hein, donc,
absolument.
Je pense qu'il faut garder... cet esprit du débutant, oser toutes les questions, on l'a dit, ne pas attendre de réponses fermées, hein, autour de la question comment garder l'esprit ouvert sur le cosmos et nous, mais aussi sur toutes les autres formes de vie possibles ailleurs. Vous avez eu envie, Sébastien Carassou, d'écouter la première scène du film Contact, qui met en scène une petite fille qui va plus tard devenir astrophysicienne, exobiologiste et se mettre à l'écoute, en contact avec d'autres intelligences extraterrestres. Mais pour leur première scène de contact, c'est donc une petite fille qui joue au Tokiwoki en dialogue avec son père.
On peut recevoir un message de Californie ?
Je vois pas pourquoi on pourrait.
On peut recevoir un message de l'Alaska ?
Oui, mais par très beau temps.
On peut recevoir un message de la Chine ?
Par très 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 beau temps.
Tu crois qu'on pourrait parler à la Lune ?
Avec une radio assez puissante, pourquoi pas, oui.
On pourrait parler à Jupiter ? Ou celle qui, après ça, ne me dit rien.
Je vais te mettre sur la voie. Oula hoop.
Saturne, on pourrait parler à Saturne? Papa, tu crois qu'on pourrait parler à maman?
Je ne crois pas que même la radio la plus puissante puisse le faire. Allez, on dort maintenant.
Dis, papa.
Oui?
Tu crois qu'il y a des gens sur les autres planètes?
Je ne sais pas, opératrice. Mais ce que je peux dire, c'est que s'il n'y a que nous, ça me semble un beau gâchis d'espace.
Très, très jolie formule. Sébastien Carassou, vous vouliez partager cet extrait-là
qui... Moi, c'est ouais. Mon extrait préféré de l'histoire du cinéma et il m'émeut à chaque fois presque aux larmes. Donc, vous n'allez pas me faire pleurer à la radio quand même.
Ah bah non, quand même pas. Mais je vais vous demander quel serait justement à vous votre rêve d'astrophysicien, de passeur de science. Est-ce que c'est de trouver d'autres traces de vie ou est-ce que c'est... Parce qu'à la fin de votre ouvrage, vous en arrivez là aussi, vous nous faites passer quelque chose, de Sense of Wonder, tiens donc, pour reprendre
absolument.
Le titre de votre chaîne YouTube.
Je pense que c'est ça ma mission, on va dire, le fil directeur de tout ce que je produis, c'est de déclencher cette réaction émotionnelle quand on contemple la nature à toutes ses échelles, et quand on se plonge dans cette énorme construction intellectuelle qui est toujours dynamique, qui n'est jamais figée, qui est toujours changeante, mais qui aborde toujours les mêmes systèmes avec des regards différents. Et je pense qu'en tant qu'humanité, on a bien besoin de regarder les mêmes objets avec des regards différents.
Les regards et les approches, oui,
oui,
c'est ça.
Oui, absolument. Moi, je suis pour un pluralisme d'approches et je pense que c'est quelque chose de très positif qui nous aiderait pas mal à vivre en société.
C'est clair. Et puis, vous nous faites partager, c'est plutôt en fin de votre ouvrage, « Le cosmos et nous ». Ce sentiment océanique ou ce sense of wonder, ce sens de l'émerveillement qu'on a quand on réfléchit, justement, ça nous sort de notre quotidien, de nos petites questions qui sont des fois que tournées sur nous.
Absolument.
Mais c'est vrai que c'est quoi ce sentiment océanique qu'on éprouve en étant scientifique, en étant poète, en étant musicien, en étant, je ne sais pas moi, bonne cuisinière peut-être aussi.
Mais absolument.
Mais c'est quoi ce sentiment océanique?
Ce sentiment d'être connecté à quelque chose de bien plus large, mais qui n'est pas forcément un sentiment spirituel. Ce n'est pas un sentiment religieux où on va s'identifier à un dieu créateur ou quelque chose. Mais c'est vraiment... Ce que nous disent les sciences du 21e siècle, c'est que nous sommes littéralement des poussières d'étoiles. C'est ce que disait l'astronome Hubert Reeves, dans un sens assez littéral. C'est-à-dire que les éléments chimiques qui composent nos corps ont été forgés il y a plusieurs milliards d'années au cœur d'étoiles massives qui ont ensuite été éjectées dans l'espace interstellaire au fil de leurs explosions ou de leurs expulsions à la fin de la vie des étoiles. Et donc, on a cette connexion qui est physique au reste de l'univers. On est lié biologiquement à l'ensemble de la vie sur Terre. On est lié chimiquement à l'ensemble de l'univers. Et pour moi, ce sont des messages qui sont très profonds et qui sont presque thérapeutiques dans un quotidien qui est quand même très, très anxiogène, surtout en ce moment. Et donc, moi, je me sers de ces messages-là pour pouvoir prendre du recul sur ces questions. C'est ce que le philosophe Pierre Hadot appelle le regard d'en haut. C'est une espèce d'exercice méditatif qu'on appelait des exercices spirituels dans l'Antiquité, où on s'extrayait par la pensée de la Terre. On flottait au-dessus de la Terre et on flottait à la recherche de l'infiniment grand, et ça nous ramenait à notre condition humaine. Certaines personnes ressentent une angoisse profonde quand ils réfléchissent à ces questions-là. Moi, ça m'apaise.
Je suis d'accord avec vous, moi ça m'apaise. Merci beaucoup Sébastien Carassou, mais vous restez avec nous. Je rappelle le titre de votre essai à lire absolument, paru aux éditions de l'Équateur, « Le cosmos et nous ». Photo de couverture qui est magnifique, on voit un homme qui a percé en plein cœur par...
Par une étoile.
Par une étoile,
c'est assez magnifique. Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y avait peut-être une inspiration d'un tableau de Matisse, mais je ne suis pas sûre. Donc, il faudra que je demande à l'illustrateur.
Entre art et science, donc. En tout cas, nous avons un exemplaire de ce très, très inspirant ouvrage, facile à lire. Il y a de l'humour aussi, parce que voilà, on l'a dit,
parce
vous ne
se
vous prenez
pas au sérieux.
Voilà. Nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs de cet ouvrage, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Avis aux amateurs de sentiments océaniques, d'émerveillement, d'astrophysique, d'astronomie, de questions existentielles et d'astronomie. Ben oui, bien sûr, car voici venue l'heure de notre éphéméride mensuelle, Sous le ciel d'Afrique, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de RFI pendant un mois pour savoir quoi observer avec ou sans lunettes depuis le continent.
Ciel d'Afrique sur RFI. En partenariat avec l'Astronomie Afrique,
Caroline Lachowski.
Cher Sylvain Boulet, racontez-nous ce qu'on pourra observer en cette fin d'année et jusqu'au 15 janvier dans le ciel du continent.
Bonjour Caroline. Alors côté planète, ça se complique un peu. Jupiter et Saturne sont de plus en plus difficiles à regarder en ce début de nuit, mais elles seront quand même cependant encore visibles juste après le coucher du Soleil. Vénus se rapproche dans le ciel du Soleil et deviendra de plus en plus difficile à localiser début janvier. Cependant, pour les observateurs les plus chevronnés, Vénus sera visible jusqu'à fin décembre, juste après le coucher du Soleil. Un très fin et un grand croissant sera alors visible à l'aide d'un petit télescope. Ensuite, début janvier, Mercure, qui était caché dans les lueurs du Soleil fin décembre, sera quant à elle bien visible après le coucher du Soleil. Et donc, voilà, profitez aussi des lumières crépusculaires du 4 janvier pour voir un beau croissant lunaire accompagné de Mercure et de Saturne. Et le 5 au soir, un bel alignement Mercure, Saturne, Lune cendrée et Jupiter sera également bien visible.
Ça promet. Et quelles sont les constellations, Sylvain, qui seront visibles fin décembre et début janvier ?
Alors au mois de décembre et janvier, profitez du début de nuit pour voir haute dans le ciel les constellations d'Orion, du Grand Chien, du Taureau et des Gémeaux. Alors le Grand Chien, il est facile à retrouver car en son sein brille l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius. Alors Sirius, c'est une étoile blanche, un peu plus grande que notre Soleil, mais elle doit sa luminosité surtout à sa proximité. En effet, elle n'est éloignée que de 80 000 milliards de kilomètres, soit 8 années-lumière.
Rien que ça.
Voilà, alors Sirius n'est pas seul. Hein. Elle a un petit compagnon appelé Sirius B, qui est une naine blanche qui tourne autour de Sirius en 50 ans. Et cette étoile, elle a inspiré de nombreuses mythologies. En Égypte, Sirius est également appelé Sobdet, et Sirius a toujours été un point de repère astronomique. Elle était notamment annonciatrice dans l'Égypte ancienne de la crue du Nil, fin juin, mais aussi des périodes chaudes. Et chez les Dogons, peuple originaire du Mali, ce couple d'étoiles avait une grande importance. Il existe chez ce peuple des sites astronomiques formés d'alignements de roches consacré à l'observation de Sirius. Et je vous invite d'ailleurs à découvrir l'article sur l'astronomie Afrique consacré à Sirius et les Dogons.
Sirius dans l'œil des Dogons, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes astronomiques à ne pas rater ?
Oui Caroline, comme le mois dernier, il ne faut pas rater quelques belles étoiles filantes durant ces 30 prochains jours. Tout d'abord, pour bien finir l'année, autour du 22 décembre, il devrait y avoir quelques belles étoiles filantes appartenant à l'essaim des Ursides, semblant venir de la constellation de la Petite Ours. La Terre rentre alors dans un essaim de poussière laissé par la comète Tuttle. Enfin, pour bien commencer l'année, vous pourrez profiter de l'essaim des Quadrantides avec un pic d'étoiles filantes dans la nuit du 3 au 4 janvier pour faire de nombreux vœux. Il faudra alors regarder vers la constellation du Bouvier en fin de nuit et vous devriez alors voir quelques dizaines d'étoiles filantes à l'heure.
Carrément, de quoi bien commencer l'année que je vous souhaite astronomique, évidemment mon cher Sylvain. On se retrouve le 17 janvier précisément pour une émission spatiale et spéciale avec une nouvelle lunette à gagner pour nos auditeurs qui sera offerte par Jean-Pierre Grothart de SSVI en personne, Éric Lagadec de l'Observatoire de Nice-Côte d'Azur et vous-même, cher Sylvain Boulet.
Oui, Caroline, effectivement, c'est encore temps de participer. Hein. Il suffit d'envoyer sur notre page Facebook l'Astronomie Afrique vos plus belles photos, vos vidéos ou encore un joli texte que vous avez écrit et vous aurez toutes les chances de gagner cette lunette. Alors, bonnes observations, bon su à tous et n'oubliez pas, le ciel est le plus grand écran, il suffit de lever les yeux.
Pour voir filer les étoiles, merci Sylvain Boulet. Notre éphéméride du ciel d'Afrique avec Sylvain Boulet à retrouver sur la chaîne YouTube de RFI et sur le site de l'Astronomie Afrique où nos auditeurs du continent peuvent donc participer pour tenter de gagner la prochaine lunette astronomique offerte par SSVI et RFI. On en profite pour saluer tous nos précédents lauréats partout, au Togo, en Guinée, au Bénin et ailleurs sur le continent qui partagent leurs lunettes avec les autres et qui ont même monté des petites éditions astronomiques. Il y aura aussi Togo sous les étoiles en février. Enfin, en tout cas, ça inspire. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, Sébastien Carassion ?
Ça m'inspire que plus on a de gens qui regardent le cosmos, j'aime beaucoup la citation de Sylvain à la fin, le cosmos est le plus grand écran.
C'est ça, parce qu'on a tous génial. Les yeux penchés sur nos téléphones.
Mais absolument, et particulièrement les astronomes au final, parce que les astronomes ont un rapport à l'écran très particulier. Oui. La plupart des images qu'on reçoit, ce sont des images qu'on reçoit sur nos écrans. Donc au final, peut-être que les gens qui regardent le plus les écrans, ce sont les astronomes. Donc c'est assez paradoxal.
C'est ça, et ce sont d'ailleurs souvent aujourd'hui, ça a été beaucoup d'amateurs hein, qui permettent tout de surveiller fait. Le ciel, d'astronomes amateurs qui, dans le monde entier, ont alerté et peuvent faire avancer aussi les connaissances, clairement.
Tout à fait. On a le réseau Fripon, par exemple, qui nous permet de détecter des météorites. Il y a des gens qui découvrent des supernovae, des explosions d'étoiles massives en amateur. C'est assez fantastique. Et plus on a de gens avec des télescopes, mieux le monde se porte en général.
Vous-même, vous aimez ça, passer vos nuits
Alors moi, j'ai un rapport très particulier avec ça. C'est-à-dire que je suis très content quand d'autres personnes ont le rapport technique avec l'instrument. Et moi, quand je regarde directement avec mon œil, je trouve ça fantastique. Mais j'ai très peu de patience avec un télescope dans la main.
Je suis un peu comme vous. Et par contre, quand des grands astronomes me montrent la Lune et le reste, là, je suis fascinée. Je retrouve un peu, on en a parlé, hein, ce sentiment océanique. Alors, c'est sûr que l'astrophysique, l'astronomie, ça élève tout de suite le cœur. Vous nous le disiez, on peut aussi se plonger dans les plus infimes des particules, les plus infimes des atomes, pour avoir ce même sentiment d'émerveillement. C'est-à-dire qu'à toutes les échelles,
absolument,
on peut s'y retrouver.
Mais littéralement, en fait, le fait de se dire qu'on est constitué de quarks, de gluons, d'atomes, d'excitations, de champs quantiques, etc., c'est la réalisation de ça, c'est de se dire que on est un univers d'atomes. Voilà, littéralement, au sens de cosmos, on est un assemblage organisé et beau de structures à plein d'échelles différentes qui interagissent entre elles à plein d'échelles et qu'on n'a pas encore compris complètement. Donc voilà, c'est quand vous vous sentez un peu déprimé, dites-vous que vous êtes un univers.
On est un univers et vous nous avez offert le grand livre de l'univers finalement avec le cosmos et nous. On est des univers à toutes les échelles. Quel est le plus grand mystère pour vous aujourd'hui? On va peut-être terminer là-dessus, on arrive à la fin de l'émission. Sébastien Carassou, pour vous, ce serait quoi? Je ne sais pas, la plus grande question, le plus grand mystère
Alors, le plus grand mystère que se posent les astrophysiciens à l'heure actuelle, c'est le mystère de ce qu'on appelle l'énergie sombre ou l'énergie noire, ce qui est l'accélération de l'expansion de l'univers depuis environ 5 à 6 milliards d'années. L'univers s'est mis soudainement à accélérer son expansion et on ne sait pas pourquoi. On a découvert ça en 98, hein, quand j'avais 6 ans. On est très très loin d'avoir la réponse à cette question aujourd'hui. Donc, comment interpréter les observations pour les faire coller à nos modèles théoriques? Ça reste une très très grande question, sachant que cette énergie noire constitue plus de 2/3 de l'intégralité du contenu matériel et énergétique de l'univers. Donc, et tout ce qu'on observe avec nos télescopes n'est que 4 à 5% de tout l'univers. Donc, c'est assez fantastique. On est dominé par le côté obscur et on ne sait pas pourquoi.
On ne sait pas pourquoi. On est entouré de noir, on est encore un peu dans le noir et on ne sait pas pourquoi. Donc, à creuser, vous revenez quand vous voulez pour nous aider à creuser ce mystère. Dans un petit siècle. Ah oui, c'est ça, là, vous pensez qu'on y sera. En tout cas, je rappelle le titre de votre ouvrage. Excellent, on l'a dit. Le cosmos et nous. Merci, Sébastien Carassou.
Merci à vous.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast, disponible sur les plateformes et sur l'appli RFI Pure Radio. La semaine prochaine, nous vous proposerons de réécouter quelques-uns de nos entretiens les plus inspirants de l'année, comment se mettre dans la peau d'un arbre, découvrir l'art rupestre en Afrique, chercher l'âge de l'univers, tiens donc, s'émerveiller de la diversité du vivant, sans oublier de réhabiliter de part et d'autre de la Méditerranée la mémoire du mathématicien Maurice Audin. Au plaisir de vous retrouver en direct, hein, l'année prochaine déjà, pour de nouvelles interrogations à creuser, à partager ensemble avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachevski au micro pour vous servir. Merci de votre fidélité, chers amis auditeurs, et de votre interactivité. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Et à l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
Spéciale élection présidentielle.